Bonjour à ceux que j'ai pas salués déjà. Alors moi je voudrais préciser en préambule que je ne suis pas un spécialiste à la base des questions de patrimoine et que c'est au titre de chargé d'études là, dans le cadre pour l'association AREAS de collecte des mémoires ouvrières que j'interviens aujourd'hui. Et notamment je vais vous présenter le travail de collecte qui a été réalisé autour du chantier de l'Hermione. Alors, c'est un travail qui a été réalisé, c'est un partenariat qu'on a avec, comme vous l'avez compris, avec les services de l'inventaire du patrimoine de la région Poitou-Charentes. Et je vais articuler la présentation en trois temps. En introduction, je vais vous dire quelques mots sur le contexte du terrain, les difficultés rencontrées, enfin, du moins les particularités de ce terrain d'enquête. Dans un deuxième temps, je vous présenterai quelques témoignages. Je vais vous présenter deux témoignages. Témoignage d'un ébéniste, mais qui est intervenu comme expert là, pour le chantier d'Hermione. Puis un deuxième témoignage, qui est le témoignage de la personne qui a réalisé les poulies du bateau. Et ça sera sous forme d'un petit portrait vidéo. Et puis je terminerai sur quelques réflexions par rapport à ce terrain autour des questions du patrimoine. Alors le travail de collecte qui a été réalisé, je l'ai réalisé entre juillet 2014 et octobre 2014. Et pour recontextualiser un peu, hein, alors il y a beaucoup de personnes qui connaissent le chantier de l'Hermione, mais peut-être quelques éléments. C'est un chantier qui a duré 17 ans, qui a commencé en 1997, mais le chantier a commencé bien avant. En fin de compte, il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle l'association L'Hermione Lafayette, qui s'est créée en 1992, déjà avec ce projet de reconstruire la réplique de l'Hermione. Il y a eu plusieurs années de recherche. Mais je dirais que même avant ça, il y avait déjà ce projet-là au niveau politique local à Rochefort. Par rapport à la figure de Lafayette. La mémoire collective avait inscrit un peu la figure de Lafayette dans la ville de Rochefort. En 1980, ils avaient fêté le bicentenaire du départ de Lafayette sur le bateau de l'Hermione. Et donc est né petit à petit localement ce projet de reconstruction de ce bateau-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'hésitation sur le choix du bateau, parce qu'il y a eu à peu près 550 bateaux qui ont été reconstruits à l'arsenal de l'Hermione sur sa grande période. Et ils auraient pu choisir d'autres bateaux où ils avaient des plans, où ils avaient toutes les données. Et en l'occurrence, sur l'Hermione, ils avaient quasiment rien. Quasiment aucun plan, quasiment aucune archive. Mais par rapport à cette figure de Lafayette, ils se sont décidés à reconstruire ce bateau-là. Après plusieurs années de recherche, de nuit du patrimoine autour de ce projet de reconstruction du bateau, où ils avaient mis en place des maquettes, des choses comme ça. Le chantier commence en 1997 avec un acteur principal qui est l'entreprise Asselin. Alors, c'est une des particularités, on pourra y revenir hein, à la fin, parce que l'entreprise Asselin, c'est pas du tout une entreprise liée à la mer, ni liée à la charpenterie marine. C'est une entreprise de rénovation du patrimoine historique. Et ce qui n'était pas un choix évident au début. Et voilà, qui a eu pas mal de conséquences sur la vie du chantier. Alors voilà un peu pour le contexte hein, de ce que c'est le chantier de l'Hermione. Après, pour revenir à la collecte du terrain que j'ai réalisé, je dirais en préambule par rapport à l'intitulé Mémoire ouvrière, c'est que moi, arrivé sur le terrain du chantier de l'Hermione, comme Pascal avait pu le laisser entendre un petit peu tout à l'heure, c'est que je n'ai pas eu affaire à des ouvriers, qu'ils soient salariés d'une entreprise ou qu'ils soient indépendants. J'ai eu affaire à des artisans ou des personnes qui se définissent par leur métier, charpentier, forgeron, menuisier. Et voilà. Deuxièmement, rapidement, je me suis dit, si le but, c'est quand même de recueillir le patrimoine immatériel de cette aventure qui était le chantier de l'Hermione, c'est intéressant de rencontrer les acteurs principaux de la construction physique, mais c'est aussi intéressant d'aller rencontrer d'autres acteurs. Et je dirais que il y a eu 11 témoignages hein, de réalisés, et j'ai rencontré trois types d'acteurs, alors des artisans essentiellement. Une deuxième partie, je dirais des concepteurs du bateau. Alors d'un côté, une personne qui travaillait pour le dernier bureau de maîtrise d'œuvre, Yacht Concept. Et c'est eux qui dirigeaient la construction du bateau. Et c'était, je trouvais ça assez intéressant pour la mémoire du chantier de recueillir cette parole-là. Et un ébéniste expert dont je vais vous parler là, Monsieur Chaussat, qui a pensé les plans du mobilier historique du bateau. Le troisième acteur que j'ai rencontré, c'est l'armateur. Parce que l'une des spécificités de la construction de ce bateau, c'est que l'armateur officiel, c'est l'association l'Hermione Lafayette. C'est pas il n'y a pas eu un chantier naval qui a été commandité. Et ça a une particularité quand même assez importante, c'est que finalement l'association l'Hermione Lafayette, c'est une petite association, même s'il y a énormément d'adhérents, hein, parce qu'ils en sont à 8 000 adhérents, je crois, aujourd'hui. C'est une petite structure. Et qui en soi, dès le début, a dû aller chercher les savoirs et les savoir-faire ailleurs. Et donc, ils ont été en perpétuelle recherche de savoir-faire. Alors, d'abord localement, ils ont été chercher les personnes qui avaient du savoir-faire au niveau de la charpenterie, au niveau de la menuiserie, en Charente-Maritime. Et puis après, très loin, parce que par exemple, toute la partie du bateau, tout ce qui est toute la partie gréement du bateau, c'est une équipe suédoise qui est venue, qui a été délocalisée pendant plusieurs mois sur le chantier de l'Hermione pour reconstruire le bateau. Ce choix, hein, de faire appel à une équipe suédoise, c'est que cette équipe-là avait elle-même auparavant, quelques années auparavant, reconstruit un gréement sur un bateau qui s'appelle le Göteborg en Suède et qu'ils avaient navigué dessus. Et donc ils avaient l'expérience de la navigation. À la fois, ils avaient monté le gréement et ils avaient navigué. Et c'était l'association et le bureau d'études avaient des gros doutes dans la construction du bateau de l'Hermione par rapport à cette partie-là. Et donc, ils n'ont pas voulu. C'est pour ça qu'il y a eu le choix de cette équipe suédoise qui s'est révélée très positive aussi après dans la transmission de savoir-faire avec les équipes françaises sur place. Voilà. Alors aussi l'une des autres particularités par rapport à ce terrain, c'est quand on y vient pour faire je dirais, l'inventaire du patrimoine immatériel, c'est qu'on arrive sur un terrain où on a affaire à des personnes qu'on construit le projet, c'est des historiens, des intellectuels, des historiens de l'art, des passionnés du patrimoine. Et donc moi je suis arrivé sur un terrain où eux-mêmes n'avaient cessé depuis le début du chantier de faire l'inventaire de ce qu'ils faisaient, du travail qu'ils avaient effectué. À la fois parce que je dirais dans leur culture, c'était ça, ils voulaient garder une mémoire du chantier, et aussi pour valoriser ce qu'ils réalisaient pour des raisons financières, donc publication, reportage, voilà. Donc voilà, moi je suis arrivé sur un terrain voilà, assez, je dirais, foulé. Voilà. Il y avait déjà beaucoup de monde qui était passé, beaucoup de choses de réaliser. Alors, je vais pas vous, comme je disais tout à l'heure, je vais pas vous présenter l'ensemble des 11 témoignages. J'en ai choisi deux. Alors, d'abord, je vais vous parler de Monsieur Chaussat, qui est ébéniste, mais qui est surtout expert en mobilier portuaire du XVIIIe siècle. Il habite à Téré, en Charente-Maritime. Et lui, c'est pas quelqu'un qui s'intéressait particulièrement à l'Hermione au début. C'est juste que l'association L'Hermione avait décidé, pour des raisons assez participatives du chantier, mais aussi pour des raisons financières, de confier la confection des meubles historiques de L'Hermione à des lycées professionnels de Charente-Maritime. Alors, je ne sais plus la petite histoire, mais il se trouve qu'un des enseignants du lycée professionnel de Surgères a présenté les plans qui étaient dessinés à Monsieur Chaussat. Et qui lui a répondu simplement, je sais qu'on peut pas présager des meubles qu'il y a sur l'Hermione, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les plans que vous avez, c'est pas ces meubles-là qui pouvaient être sur l'Hermione à l'époque, parce qu'il s'agit de meubles qui ont été dessinés sur des critères de meubles parisiens de cette époque-là, et c'est pas du tout les meubles de mobilier portuaire du XVIIIe siècle qu'on peut retrouver. S'en est suivi des tractations. Finalement, il a eu un ingénieur du bureau d'études qui est arrivé un peu en panique en lui disant « On est si loin de la vérité que ça ». Il a dit « Ben oui, vous êtes loin de la vérité ». Et donc, ils ont décidé de lui confier, pas la confection, mais au moins de redessiner tous les meubles de l'Hermione, du pont de batterie, c'est-à-dire il y avait trois cabines, la cabine de Lafayette et puis deux autres cabines d'officiers et le carré. Alors, je vais vous en présenter quelques images. Alors, ça. Alors ça, c'est le modèle qui a servi à Monsieur Chaussat pour redessiner la table de carré. Voilà. Là, on l'a. Ça, c'est la table qui a été réalisée. Donc, comme ça, elle a l'apparence d'une table normale. Mais elle a la particularité de devoir être démontable. Et on aperçoit le système qui a été réalisé. Donc là, on voit la ferrure extérieure. Là, on voit le système de pliage de la table. Voilà, ça, c'est la table qui prenait place dans le carré pour étaler les cartes et que les officiers mangent. Donc là, on voit les ferrures intérieures qui permettent le pliage. Là, c'est la table sous un autre plan. Alors, c'est une table hein, qui est juste pour information, qui mesure à peu près 2 mètres sur 1 mètre de large. Et on a un plateau qui vient se poser dessus. Autre pièce qui a été dessinée par Monsieur Chaussat, alors qu'il a redessiné par rapport à des. Lui-même avait des meubles qu'il avait récupérés dans des maisons d'armateurs à La Rochelle. Et donc, il s'est servi de son fonds en propre à lui. Et donc ça, c'est des meubles, ce qu'on appelle des coffres à bras. Et donc c'est vraiment le mobilier typique qu'on pouvait retrouver dans les bateaux de cette époque-là. Alors il insiste sur le côté du respect de l'historicité dans la construction de ces meubles-là. Alors il y a eu des machines hein, qui ont été utilisées pour usiner les différentes pièces. Par contre, elles sont reconstruites comme à l'époque. Il y a eu respect du bois, des essences de bois, des cols animaux qui ont été utilisés et c'est chevillé à la tire. Après, les ferrures sont des ferrures qui ont été faites à la main par un ferronnier en Bretagne. Et il insiste sur ce côté-là en disant vraiment qu'il y a eu une grande recherche au niveau de l'historicité dans la reproduction de ce mobilier-là. J'en parle un peu parce qu'on va y revenir après, parce que cette question de l'historicité dans la reconstruction du bateau, c'est quelque chose qui a été sous-jacent dans toutes les discussions et dans tous les choix qui ont été faits pendant 17 ans. Et donc, comme le dit ce monsieur, hein, il dit on ne peut pas présager du mobilier qui était à bord, mais en tout cas, le mobilier que j'ai dessiné, qui a été construit, c'est un mobilier qui correspond à du mobilier de bateau de la même époque et fabriqué avec les mêmes matériaux et procédés de construction. Donc voilà pour la présentation de ce monsieur. Alors la deuxième figure que je voudrais vous présenter, c'est Monsieur Drujon. Alors Monsieur Drujon, c'est un menuisier ébéniste à La Champagne, en Charente-Maritime. C'est quelqu'un qui a eu un parcours classique, apprentissage de menuiserie, et puis qui était spécialisé dans la construction de meubles charentais. Et il y a voilà, le meuble charentais depuis, je dirais, courant des années 80, se vend très mal. Et il a cherché pendant des années une niche économique pour développer son activité. Et il s'est passionné pour les poulies de bateau. Et notamment dans les nuits du patrimoine qui était organisée par l'Hermione, il a présenté ses modèles jusqu'au jour où l'association L'Hermione lui confie le chantier entier de la construction des poulies de l'Hermione. Alors moi j'ai mené l'entretien. Suite à cet entretien, c'est l'une des spécificités hein, du projet avec le service de l'inventaire, c'est qu'on fait des petits reportages sonores et des petits portraits vidéo. Donc il y a un portrait vidéo qui a été réalisé avec la société de production Real Factory, pour pas les nommer Romain Lardo et Rebecca Sénéchal. Donc on a été passé 2 jours là-bas en décembre 2014 dans l'atelier Monsieur Drujon pour réaliser ce petit reportage. Donc je vous le présente, hein, c'est la première fois qu'il est diffusé. J'espère que c'est bon au niveau du. Ça dure 6 minutes à peu près. 6, 7 minutes.
Alors, je m'appelle Jean-Michel Drujon, je suis artisan ébéniste à la Champagne et j'ai eu la chance de fabriquer les poulies de l'Hermione et les pièces de l'accastillage de l'ensemble du bateau. Il y a eu un travail réalisé par des historiens avec l'aide des archives aussi, on a pu retrouver la quantité de poulies et leurs fonctions et de refaire toutes ces pièces poulies et pièces d'accastillage à l'identique, aussi bien dans leur essence de bois et dans leur aspect en général. On part effectivement d'un morceau d'orme. Ce bloc, il est corroyé. On le passe dans des machines pour lui donner une forme rectangulaire. Ensuite, on fait les opérations de mortaisage. On évide l'emplacement où vient se loger le réa. Et ensuite, on a des opérations de perçage pour l'essieu. L'essieu, c'est l'axe de la poulie. Et après, on a toute une opération de façonnage. C'est la mise en forme de la caisse, de la partie en orme. Et on a le façonnage de la partie bois. Et ce façonnage est fait de différentes manières. Ça peut être fait avec des outils à main quand on est sur une pièce unique. Et ensuite, dès qu'on est sur des quantités un peu plus importantes, je m'aide d'une ancienne machine à faire les sabots qui a été adaptée pour façonner l'extérieur de ces pièces de bois.
Donc là, j'ai retourné la pièce et je suis en train de finir la deuxième partie. Et quand celle-ci va arriver, c'est pareil, la machine va s'arrêter. Et ensuite, cette poulie va être reprise pour des finitions manuelles. J'arrive à une étape importante. Je vais devoir creuser les engougeures, les emplacements où repose l'estrope.
La partie de chanvre qui entoure la pièce d'orme et permet de l'amarrer solidement. C'est des opérations assez longues. Il faut qu'elle soit soigneusement effectuée pour en aucun cas que l'estrope sorte de son logement, qu'elle reste bien à sa place.
Donc à présent, l'étape suivante, après le façonnage, comme on voit ici, ce qui a été fait tout à l'heure de la caisse de poulies, je vais me mettre à assembler donc le réa. C'est cette pièce de bois qui a été préalablement usinée sur le tour à bois. Et donc là, elle est entièrement suifée. On met du suif dessus, de la graisse naturelle, de manière à protéger le bois et à faciliter la friction. Donc la caisse de poulie en orme a été traitée à l'huile de lin et teintée noire, avec les inscriptions dessus du diamètre de la manœuvre qui passe dedans, donc du cordage qui passe à l'intérieur, et c'est en pouce de Paris, et c'est notifié sur toutes les poulies. Donc, bien vérifier qu'il n'y ait rien qui gêne le montage. Donc à présent, je prends donc le réa en gaillac. Il est positionné dans la poulie. Je mets l'axe dessus. Voilà. Donc l'axe est entièrement traverse entièrement la poulie et on a une rotation libre du réa à l'intérieur de la poulie avec un jeu suffisant pour pouvoir la graisser de chaque côté la poulie dans quelques temps quand elle aura pas mal fonctionné. À présent, on n'a plus qu'à lui mettre une estrope et elle est parfaitement opérationnelle.
Alors, peut-être par rapport à ce portrait, deux petites choses techniques. Hein. Vous avez vu la production de la caisse hein, de la poulie en norme. Et le réa. Alors, ça a été une grosse difficulté sur ce chantier-là. C'est que l'orme, c'est un bois qu'on ne trouve plus. Il y a eu une maladie. Et ce monsieur, là, de Rejon, comme il le dit, il a dû prendre son bâton de pèlerin pour essayer de trouver des stocks d'orme. Surtout que la particularité, c'est quand il y a eu la maladie qui a touché l'orme, on a fait couper le bois dans des petites sections, parce que généralement, c'est de l'orme qui servait à faire des escaliers. Et lui, il avait besoin de trouver des sections quand même relativement importantes pour construire les caisses des poulies. Et donc, il a passé beaucoup de temps pour ça, jusqu'à trouver un stock assez conséquent qui lui permet de construire les poulies. Et la deuxième chose, la pièce qu'on voit à l'intérieur, le réa, c'est construit dans un bois qui s'appelle le gaillac. Et le gaillac, c'est un bois qui est un bois exotique dont la commercialisation est très légiférée aujourd'hui. Et c'est très compliqué d'en obtenir. Et pareil, il faut l'obtenir dans une certaine dimension parce qu'il y a un cœur, il y a une fêlure au niveau du cœur. Et on ne peut pas travailler en fonction de la taille du réa qu'on a à construire. Il faut une certaine taille du bois. Et ça, c'est pareil. Ça a pris longtemps. Il a dû passer par l'Allemagne et le Brésil pour trouver du bois. Donc, c'était une petite précision parce que ça fait partie du cœur un peu de l'entretien qui avait été réalisé. Voilà. Moi, après ces présentations, je voudrais évoquer deux petites réflexions par rapport à ce terrain d'étude. La première, ça a été que quand j'ai conduit les entretiens, notamment avec les artisans et plus particulièrement avec les forgerons sur le chantier, ce qui est revenu à peu près à chaque fois dans les entretiens, alors c'était un chantier en public, voilà, ils travaillent devant le public, ce qui est revenu quasiment à chaque fois avec les forgerons, c'était l'aspect mémoriel pour les visiteurs de visiter le chantier et comment rapidement ils se faisaient aborder par les visiteurs qui venaient raconter leur propre histoire. Parce que soit eux avaient une pratique de la forge, soit leur grand-père ou un aïeul avait une pratique de la forge. Et donc, ils se servaient du chantier pour venir raconter leur histoire et leur donner des conseils sur comment eux, ils feraient, etc. Des conseils qui ont parfois été assez fructueux, hein, parce que contrairement à d'autres métiers, enfin, en tout cas, j'ai compris que dans la forge marine, il n'y avait pas tellement de fiches recettes des pièces. Il n'y avait pas de bible de comment on fabrique un crochet. Donc on est vraiment dans une démarche empirique à chaque fois. Et donc il faut se reposer à chaque fois la question des sections utilisées, de la qualité de l'acier utilisé. Et voilà. Et donc il y a pu avoir des échanges entre des amateurs de pratique ou des personnes qui avaient vu leur propre père ou travailler et ces forgerons qui sont relativement jeunes. Les forgerons qui travaillaient sur le chantier pour la production de pièces. Donc voilà pour cet aspect-là. Et le second aspect que je souhaiterais évoquer, c'est l'évolution de l'organisation du travail qui est en grande partie liée à l'évolution du projet en tant que tel de l'Hermione. En fait, au tout début de la construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une entreprise qui s'appelait l'entreprise Asselin qui avait eu le marché pour la construction de la coque. Et petit à petit, il y a des différents métiers qui sont venus se greffer. Forgeron, voilière, un petit atelier de charpenterie à part qui construisait les chaloupes. Et le fonctionnement, l'organisation du travail au début était un fonctionnement en régie. Les personnes venaient travailler, faisaient leurs heures sur le chantier. Et c'était une animation publique et ils étaient payés à l'heure. Et au point que, enfin vraiment, le but au début, c'était de créer une animation pour le public et d'être dans la démonstration. Ce qui a suscité des débats, et notamment, je vais vous faire une petite citation d'un des forgerons que j'ai rencontré, parce que pendant un temps, par exemple, la forge fonctionnait, mais il ne fabriquait strictement rien. Il ne fabriquait aucune pièce pour l'Hermione. Dis-moi, ça m'a toujours un peu gêné. Je me rappelle m'être fâché des fois avec des gens parce qu'ils voulaient faire d'une certaine façon, parce qu'il y avait le public, et moi, ça pour moi, ça ne marchait pas. C'était pas du tout la chose prévue. Et depuis que j'ai été en charge du chantier, ça a été très clair. On ne fait pas différemment parce que le public est là. L'idée, c'est qu'on ne fait pas du folklore. On n'est pas le Puy du Fou. Ouais, c'est voilà. Pour dire un peu le positionnement un peu de l'équipe de Forgeron. Et il y a eu un basculement, notamment avec l'arrivée du dernier maître d'œuvre. Et le basculement dans l'organisation du travail, il a clairement été quand ça a été dit et affirmé que le but, c'était de faire naviguer ce bateau et de le faire traverser l'Atlantique. Parce que dès le début, il y avait cette idée que le bateau traverse l'Atlantique, mais c'était pas aussi clair que ça pour tout le monde. Et à partir du moment où ce choix-là de le faire traverser l'Atlantique a été décidé, ça a eu plein de conséquences, parce qu'ils se sont retrouvés à devoir faire face à plein de contraintes des affaires maritimes. Et par exemple, très vite s'est posé la question des moteurs. Évidemment, si on traverse l'Atlantique, il faut des moteurs. Pendant très longtemps, il y a des personnes qui étaient très actives dans l'association qui ne concevaient pas l'idée qu'il puisse y avoir des moteurs sur ce bateau. Et puis, éclairage, système de sécurité, etc. etc. Et donc, à partir du moment où il y a eu cette question d'animation, au niveau du travail, il y a eu un basculement, c'est-à-dire qu'on est passé sur un système d'appel d'offres, de devis, et tous les différents artisans, en gros, il y avait une commande du maître d'œuvre pour un certain type de pièces et un certain nombre de pièces. On majorait le prix parce qu'on savait qu'on travaillait devant le public et que c'était une contrainte de temps de travailler devant le public. Mais au moins, on était vraiment dans un objectif de production de pièces et avec une date de fin du bateau et que ce bateau soit navigable pour cette période-là. S'en est suivi après une quantité de débats sur plein de points du bateau parce que au niveau du respect de l'historicité de la construction. L'un des points par exemple importants, ça a été les mâts. Aujourd'hui, les mâts qui sont sur l'Hermione, c'est des mâts en lamellés collés. Ce qui n'est pas du tout des mâts traditionnels, parce que les mâts traditionnels, c'était plusieurs troncs d'arbres qui servaient à construire le mât. Et le choix, il a été très clair. À partir du moment où on veut un bateau qui soit navigable et durable dans le temps, économiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire installer des mâts en lamellés collés. Ce qui a pour conséquence qu'autrefois, on cerclait les mâts à chaud pour la solidité du mât. Et donc ça, aujourd'hui, ce cerclage-là, il a été fait à froid sur les mâts de l'Hermione. Et il a été fait uniquement pour des raisons esthétiques. À la base, c'était autrefois, il avait vraiment une raison utilitaire, technique. Alors il y a quelques endroits, si j'ai bien compris, où ça avait quand même encore cette utilité technique. Mais tout le cerclage des mâts de l'Hermione, finalement, n'a une utilité qu'esthétique. Voilà. Et comme le dit très bien le responsable du bureau d'études Yacht Concept, dit l'Hermione, actuellement, c'est deux bateaux en un. D'un côté, un bateau qui respecte au maximum l'historicité du bateau originel en extérieur, et plus on descend dans la cale, plus on a un bateau moderne avec système d'aération, moteur, système électrique, cuisine. Et cette même personne résume assez bien l'accord collectif qui a été fait. C'est moi qui parle d'accord collectif par rapport à ça. Il dit on a fait un bateau navigable au 21e siècle mais qui respecte la signature visuelle de l'Hermione historique. Et je terminerai sur ce concept de signature visuelle, car quand j'ai évoqué le sujet avec des personnes qui s'intéressaient plus ou moins à l'Hermione, ils étaient très surpris par exemple que le bateau possède des moteurs. Alors au bout de 5 minutes de discussion, ils comprennent, ils disent bah oui, finalement c'est tout à fait logique que ce bateau ait des moteurs aujourd'hui, etc., etc. On avait même reçu une anthropologue en début d'année où on avait discuté du sujet et qui avait fini par dire « mais ce bateau, c'est un fake finalement, derrière la carcasse de la réplique, c'est que de la pacotille, enfin voilà. Alors je trouve que c'était un peu fort, elle y allait un petit peu fort parce que finalement on se rend compte qu'il y a quand même plein de chantiers très précis sur la construction de l'Hermione où il y a eu des recherches historiques poussées à la fois dans les matériaux utilisés. Mais je trouve ça assez intéressant de pointer cette contrainte de navigation qui est venue basculer le mode de production du bateau. Et faire plein et d'obliger plein de compromis sur le mode de production du bateau. Voilà. Et je pense qu'il y a eu une tension à un moment donné entre des personnes qui étaient partisans de dire on n'a pas de date de fin de ce chantier et finalement on va faire les animations devant le public et si le chantier dure encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas très grave. Et après d'autres personnes qui ont dit oui mais le but final c'est finalement la navigation. Et donc, à ce moment-là, il faut être dans un objectif de production accéléré du bateau. Enfin, accéléré 17 ans, quand même. Voilà. Voilà. Je vous remercie.
Merci, oui. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, je l'ai su. Il m'a dit, je crois que l'ensemble des pièces d'acastillage, c'est 3500 pièces. Mais voilà. Pas de poulies, hein. Après il y a une quantité de petites pièces. Voilà.
La commande de l'artisan était combien parce que
c'est un chantier important pour lui, mais il le dit lui-même, finalement c'est un chantier qui lui a permis de vivre, mais pas de s'enrichir. Voilà, parce qu'il était passionné, qu'il voulait absolument avoir ce marché-là. Et donc voilà, entre le temps qu'il a passé en recherche et développement. Et après le temps de production, voilà, il n'a pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est, et c'est un chantier qui se termine. Alors, ce qui est assez bien, c'est qu'il est, lui-même dans une transmission de savoir-faire par rapport à l'équipe de l'Hermione, parce que il est en train d'apprendre à quelques bénévoles de l'Hermione comment construire des poulies, parce qu'il va forcément y avoir de la casse sur le bateau. Il faudra remplacer au fur et à mesure les pièces d'accastillage. Et donc, ça sera des personnes bénévoles de l'Hermione qui auront appris à fabriquer les poulies qui vont renouveler le stock. Voilà.
En fait, ce bateau, c'est une utopie. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui voulaient que ça finisse jamais. Parce qu'on n'arrive jamais à construire une utopie. Et peut-être aussi, c'est pour ça que ça choque ceux qui apprennent qu'il y a un moteur et de la haute technologie, finalement, dans cette espèce d'utopie. C'est un monstre, ce bateau, en fait.
Je sais pas si c'est un monstre, en tout cas.
Mais je veux dire, il participe. Voilà, c'est à la fois une résurrection du 18e et en même temps, il est de notre époque. Donc. Un monstre temporel, je ne sais pas.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a eu, il y a eu un vrai débat au sein du comité historique de l'Hermione avec certaines représentations autour du patrimoine, ce que doit être la réplique d'un bateau historique. Et voilà, et ça s'est fait. Je trouve que c'est un chantier assez intéressant. On pourrait reprendre un point par point tous les chantiers, toutes les décisions qui ont été prises, parce que chaque décision, apparemment, il y a eu des longues discussions sur l'utilisation des peintures. Au début, ils étaient vraiment repartis sur refaire des peintures à l'ancienne, avec les mêmes pigments utilisés à l'époque, et voilà, avec des choses après d'un côté où on a la construction de parties du bateau qui sont très, très, très modernes.
Parce que je crois que c'est Aurélie qui le rappelait dans son introduction. Le patrimoine, c'est une sélection opérée par l'opinion publique, les historiens, etc., sur des objets emblématiques. Bon, celui-là, il l'est particulièrement, il symbolise la relation franco-américaine, etc. Donc, à partir de là, effectivement, ça aurait été un autre bateau que l'Hermione, on aurait peut-être respecté l'utopie, il aurait été fait. Mais à partir du moment où il y avait cet enjeu-là, il fallait qu'il navigue. Et voilà.
Oui, oui. Mais c'est pour ça que je disais que derrière la Hermione, c'est vraiment la figure de Lafayette qui a été choisie au niveau politique à la fin des années 70, au début des années 80, qu'à ces conséquences, qu'à ces conséquences-là. Parce qu'effectivement, ça aurait été certainement un autre bateau où l'enjeu d'aller aux États-Unis était moindre. Peut-être qu'on n'aurait pas eu les mêmes choix dans la construction du bateau.
Ou alors un enjeu plus scientifique, parce qu'il y a déjà eu des reconstitutions comme ça de bateaux ou même de radeaux, le Contiki par exemple, c'est ça. Mais alors là, on respecte, il y a un documentaire à la clé, etc. On respecte scrupuleusement. C'est une démonstration scientifique ou archéologique, mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment un objet
Ouais. Mais tout ça a été vraiment en débat et pas clairement dit, je dirais, au début. Par exemple, il y a des forgerons qui ont travaillé au début. C'est le château de Guédelon, où ils sont vraiment dans une reconstruction à utiliser les outils d'époque, etc. Et par exemple, il y a eu une période où il y a des forgerons qui s'amusaient vraiment à refaire des pièces à l'époque sans utilisation de meuleuses, sans utilisation des techniques d'électricité, etc. Il y a eu cette tentation de la part de certains acteurs d'être vraiment un peu plutôt scientifique sur... la reconstruction du bateau. Voilà. Et comme le dit assez bien le forgeron, c'est lui qui parlait du château de Guédelon, il dit, à partir du moment où on a choisi d'avoir un bateau navigable, il dit, château de Guédelon, on ne leur impose pas les normes sismiques qu'on a aujourd'hui dans leur projet de reconstruction. Il dit, nous, à partir du moment où on a décidé que le bateau était navigable, on a affaire aux affaires maritimes et aux contraintes des affaires maritimes qui viennent modifier le...
Qu'est-ce qui va donc il y a une capitalisation de savoir-faire, il y a des artisans, des ouvriers qui ont vécu en fait de ce chantier pendant des années. Quelle va être la suite? Est-ce que ça va être des partenaires privés, des commandes privées, des commandes internationales? Des réseaux de savoir-faire un peu comme les Suédois qui viennent à Rochefort, parce que là il y a une petite question, mais une petite question de développement en même temps qu'une question de patrimoine.
Alors ce que j'ai compris, hein, parce que moi je suis pas au courant de tous les détails des projets de l'association L'Hermione, ce que j'ai compris c'est que quand même le but c'est que le bateau navigue le plus possible et d'avoir des partenaires avec différentes villes. Ce bateau a été à Bordeaux, il y a plusieurs choses de prévues, parce qu'il va falloir faire vivre un équipage aussi. Grande partie bénévole, mais quand même avec une équipe de professionnels. Voilà. Ce qui a été dit aussi par ce qu'on appelle le Bosco, hein, qui est le Suédois qui a pensé le gréement et qui dirige des manœuvres sur le bateau, c'est que lui, il a dit, un bateau comme ça, ça ne peut pas rester à quai. Ce qui reste à quai, c'est au niveau entretien, vie du bateau, il est voué à sa perte et il faut que ce soit un bateau qui navigue, ne serait-ce point de vue entretien du bateau. Et donc il y a cette perspective-là. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pas mal avec les États-Unis, notamment dans la transmission de savoir-faire, où l'association L'Hermione veut valoriser les méthodes de travail qu'ils ont pu développer et comment ils ont construit ce bateau-là pour le transmettre et se faire rémunérer pour ces questions-là aux États-Unis. Donc voilà, il y a différents projets comme ça. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va donner suite à Rochefort, mais c'est que derrière l'idée de construire l'Hermione, il y avait l'idée de faire revivre l'Arsenal. Et ils se sont retrouvés des difficultés qui étaient à l'époque de l'Arsenal, qui étaient l'envasement du chenal pour sortir. Envasement qui autrefois était désenvasé par des moulins. Je ne me posais pas trop de questions parce que je ne maîtrise pas trop, mais il y avait un système de moulins qui existait pour désenvaser le chenal et pour faire sortir les bateaux. Donc suite à ça, ils sont en train de se dire peut-être qu'une des suites qui serait possible, ce serait reconstruire ces moulins pour désenvaser et permettre à l'Hermione de rentrer assez facilement à Rochefort. Voilà. C'est une des idées dont j'ai entendu parler. Mais voilà. Après, les autres forgerons, les autres personnes, il y en a beaucoup qui disent que eux, ça va leur servir parce que ça, sur leur CV, ça fait quelque chose d'assez prestigieux et qu'ils vont pouvoir travailler ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, il y a des métiers, par exemple la voilière ou le poulieur, ils disent très bien qu'ils ne savent pas trop. C'est des chantiers comme ça, il n'y en a pas tous les... Il va falloir qu'ils se reconvertissent, quoi. Ils ne trouveront pas au niveau activité...
Parce que
C'était un pari, Asselin, effectivement.
Asselin. Il
n'était pas du tout un chantier naval.
Oui. Alors, ce qui était intéressant, c'est que je pense qu'il y avait, la figure de, j'ai oublié son prénom, de François Asselin, qui voulait faire ce chantier-là. Voilà, par passion, donc il s'est battu pour pouvoir l'avoir. Mais il y a un deuxième critère qui était aussi organisation du travail, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grand arsenal de construction de bateaux, il n'y a plus d'équipe, et souvent les charpentiers de marine, c'est plutôt des équipes très restreintes d'une ou deux personnes, et qui n'ont pas l'habitude d'une organisation de travail en équipe, et qui sont vraiment dans l'empirique. Et c'était d'ailleurs intéressant de croiser le discours des charpentiers de marine et des charpentiers terrestres. Parce que vraiment, ce qui a apporté Asselin, c'était une méthode de travail, d'avoir une grande équipe, et où chaque charpentier pouvait être remplacé du jour au lendemain, parce que toutes les pièces étaient numérotées. Il y avait une organisation de travail à la bonne dimension, voilà, je dirais. Et en ça, je pense ça a été plutôt un succès de faire appel à l'entreprise Asselin. Voilà.
Oui, moi j'avais une question assez pratique en fait par rapport au financement. Je ne sais pas si vous l'avez dit ou ça m'a échappé. J'ai compris que c'est une association qui a mobilisé énormément de savoir-faire et de personnes sur les territoires locaux ou un peu au-delà. Mais le financement, il est assuré par...
Alors, ils ont quand même une grosse partie d'autofinancement. Hein. C'est parce que c'était pour ça au début qu'il y avait des visites et de l'animation devant le public. Parce que au tout début, finalement, ils ont posé la quille. Il n'y avait pas grand-chose à voir sur le chantier, si ce n'est de la démonstration d'un forgeron, d'une voilière et tout ça. Donc ils ont eu de l'argent comme ça. Après, la région Poitou-Charentes a été un gros partenaire. La ville de Rochefort aussi. Et donc voilà, le financement a été comme ça. Ce qui pose aussi question tout à l'heure sur la question du financement, parce que une fois que le bateau est parti pour naviguer, y a beaucoup moins de choses à voir à Rochefort. Donc je pense qu'ils sont là-dedans, quoi, sur le bon équilibre à trouver pour avoir le bateau quand même suffisamment longtemps à quai dans une année. Pour avoir des visites et avoir des rentrées d'argent par rapport à ça. Alors après, il y a des visites qui s'organisent dans les autres ports, mais voilà. Puis après, il y a du merchandising qui s'est mis en place autour une boutique, enfin voilà, assez classique aujourd'hui. Voilà.
Oui, mais je crois que ça montre bien en effet la tension entre avoir une approche un peu scientifique et qui révèle un peu des savoir-faire ancestraux et en même temps une espèce de télescopage avec la modernité et puis d'autres projets un peu. Dans ce que vous racontez, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est pas simple en fait à gagner comme,
oui,
comme aspect. Ouais.
Dans la continuité de la discussion qu'on vient d'avoir, où ira l'argent, par qui il sera géré, est-ce qu'il y a un lien aussi avec l'État au niveau de Paris, parce que c'est un peu ça peut un peu rentrer dans la diplomatie en tant qu'emblème français. Mais dans quelle mesure à Paris on s'en mêle ou pas du tout?
Non, à Paris je pense pas, à la région oui. L'argent, clairement, l'armateur, le propriétaire du bateau, c'est l'association Hermione. Hein. Voilà. Donc,
c'est des gens qui sont.
Mais c'est.
Qui sont professionnels de quoi? Dans quel domaine ils sont?
Par exemple, elle est historienne. Celle qui. Madame Vital, hein, qui est arrivée à Rochefort, à l'arsenal de Rochefort, à la Corderie Royale en 88, qui a pris tout de suite la direction de l'association en 92. Donc elle a suivi l'aventure du chantier depuis le début. Voilà. Donc, après, c'est une petite équipe de permanents qui gère secrétariat, communication, etc. au niveau de l'association. Et après, ils délèguent tout en externe. Mais c'est plutôt un cadeau empoisonné hein, d'être propriétaire de ce bateau-là. Qui se pose la question, le jour où ils vont plus avoir le financement, savoir est-ce qu'ils ne feront pas une rétrocession à l'État ou à la région. Voilà, parce que en coût d'entretien, en termes d'entretien et en termes de paiement, de charges de l'équipe de navigation, voilà, c'est des coûts assez importants. Et s'il y a un travail, un bateau en bois, à partir du moment... Ça, c'était une étape aussi assez intéressante, parce qu'ils ne s'étaient pas tellement posé la question, parce que toute la coque du bateau était construite sous un chapiteau. Et le jour où ils ont enlevé le chapiteau, ils se sont rendus compte qu'ils mettaient du bois à l'air libre sous l'eau et qu'il y avait une autre chose qui arrivait, qui était l'entretien. Et là-dessus, il a fallu rationaliser aussi certaines tâches et certaines pièces pour qu'elles soient au niveau entretien plus facile, la solidité dans le temps. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont été embauchées au sein du chantier, spécialement dédiées à l'entretien du bateau à partir de ce moment-là. Et après, il y a eu pas mal de choix techniques qui ont été faits par rapport à ça, hein, au niveau des peintures, au niveau des choses comme ça, par rapport à cette question de l'entretien.
Merci. On va peut-être aller manger. Alors, vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, et que je crois qu'il y avait 15 repas prévus, c'est ça ?
Oui.
Donc, on avait prévu de proposer le repas aux intervenants, mais du coup, si vous voulez rester manger avec nous, voilà, il y a de quoi.